Bien car sûr. Il y a un certain nombre de sectes, et notamment une secte dont on va beaucoup parler maintenant, même si elle a été interdite depuis de longues années, elle a changé de nom, mais elle a changé de nom aussi. Hein. Bon, c'était les enfants de Dieu. Un certain nombre de ceux qui nous écoutent, ça doit leur parler, parce que on les voyait à la télé. C'était des hippies et ils chantaient la gloire de Dieu quelquefois dans des émissions de télé. En fait, la réalité, c'est que c'était une secte pédophile, proxénète d'enfants. Et nous allons, à ce propos, puisque vous l'évoquez dans votre nouvelle émission, nous allons entendre le témoignage d'une jeune femme qui est venue à visage découvert vous parler de ce qu'elle a vécu dans cette secte. Elle s'appelle Amorena Winkler. Elle a écrit d'ailleurs 2 livres pour essayer de se libérer, mais on ne peut pas se libérer totalement, évidemment, de tout cela. On la rejoindra dans quelques minutes, mais d'abord parlons des enfants de Dieu. Alors j'ai retrouvé avec Charles de Luermoz dans les archives de la rédaction d'RTL 2 documents qu'on va entendre tout de suite. Le premier document, il date du 25 février 1976. Pourquoi ? Eh bien parce que la veille, le 24 février, à Namur, en Belgique, on avait découvert le corps d'un homme qui s'était suicidé, et l'enquête va très rapidement découvrir que cet homme, ce jeune homme, toxicomane, très mal dans sa peau, avait fait une sorte de suicide rituel dans le cadre de cette secte, les enfants de Dieu. Donc, réaction ici à RTL. Le lendemain, le journaliste Édouard Pelé va interroger le responsable des enfants de Dieu en France et lui demande « Mais qu'est-ce que c'est que cette secte ?» Écoutez la réponse.
Le groupe des enfants de Dieu, la communauté des enfants de Dieu, ce n'est pas du tout une secte. C'est un groupe de jeunes de toute religion chrétienne qui se sont formés déjà depuis 7 ans par un pasteur protestant qui a vu que l'Église, en 1968, ne s'occupait pas assez des jeunes drogués. Alors lui-même s'y est mis et a commencé avec sa famille à aller distribuer les sandwichs aux jeunes hippies sur la plage en Californie et les a aidés. Et ces jeunes se sont convertis, ont arrêté de prendre la drogue et se sont conformés à une vie normale et saine. Ces jeunes sont retournés vers leurs propres amis en leur disant « J'ai trouvé quelque chose de réel, ce qu'on cherchait tout ce temps-là, en essayant de convertir leurs amis à l'amour de Dieu. » Et au bout de 7 ans maintenant, cet effort est parvenu à 4000 jeunes qui, à plein temps, maintenant, donnent leur vie à essayer d'apporter cet amour de Dieu à travers le monde.
Si je peux me permettre, c'est l'appartement témoin. Oui. C'est-à-dire que c'est un énorme mensonge. Ça se passe pas du tout comme ça dans la réalité.
Non, pas du tout.
Dans la réalité, nous avons trouvé un document RTL qu'on va écouter tout de suite d'ailleurs, qui remonte lui à 1993, donc des années après cette déclaration. Les enfants de Dieu n'existent plus. Ils s'appellent la famille d'amour, mais enfin, ils sont toujours là. Et c'est toujours une secte pédophile et une secte proxénète d'enfants. Et ce 11 juin 1993, sur RTL, on entend le témoignage d'une adepte qui a pu se libérer de la secte. Elle s'appelle Catherine. Elle a 25 ans à l'époque. Elle est mère de 2 enfants, toujours à l'époque. Et elle se confie, vous allez l'entendre, à Bernard Poirette.
À 14 ans, on m'a forcé à avoir des relations sexuelles. La personne qui nous a fait entrer chez les enfants de Dieu m'a plus ou moins harcelée, si vous voulez. Bon, il y avait des fois, il me laissait tranquille. Et puis, quand j'ai eu mes règles pour la première fois, il m'a forcée à coucher avec. Ça n'avait pas marché parce que je ne me laissais pas faire. Il avait laissé tomber et puis il a recommencé quelques mois après.
Est-ce que votre maman qui était là était au courant ?
Oui, elle a laissé faire. J'en ai jamais voulu, si vous voulez, parce que pour elle, c'était dans le cours des choses, parce qu'on est conditionné de telle façon à ce qu'on accepte tout. Mais maintenant, moi, j'ai 2 filles, j'ai plus de recul, et je me dis jamais, jamais, je n'autoriserai quelqu'un à faire ça à mes filles.
Et le discours porteur du groupe, c'était « aimons-nous les uns les autres ».
Ah oui, tout à fait, oui, oui. Moi, j'ai assisté à des sortes d'orgies, hein. J'ai vu ma mère avoir des rapports sexuels, je voyais les personnes avoir des rapports sexuels, hein. Rien n'était caché, on vivait sous tente, moi je voyais tout, hein. J'assistais à tout. Hein.
Il y a d'autres mauvais souvenirs à part celui-là ?
Oui, j'ai été battue aussi parce que j'étais quelqu'un qui était parfois docile, Mais je me révoltais contre certaines choses parce qu'il y avait beaucoup d'interdits. J'avais pas le droit de côtoyer des jeunes de mon âge. Moi, j'étais à l'époque, j'étais un peu roman photo. J'avais pas le droit de lire de roman photo. J'avais pas le droit de m'éloigner seule. J'avais plein d'interdits, puis je me révoltais. J'ai été battue, oui. Maintenant, c'est surtout une certaine révolte que j'ai parce que moi, je sais ce que j'ai traversé chez les enfants de Dieu. Je sais ce que d'autres enfants traversent encore. Et c'est surtout, si vous voulez, qu'après tout ce nombre d'années, ça existe encore.
Pense pas, a priori, aux victimes de sectes quand on dit un jour la vie a basculé, parce que la vie met très longtemps à basculer, ou plus exactement, elle bascule, et puis ensuite, ça dure parfois de très nombreuses années avant de pouvoir s'en sortir. C'est ce qui est arrivé à Amorena Vinclair, donc qui témoigne dans votre émission, Dominique Rizet. Vous êtes en ligne, Amorena, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, que les choses soient claires, vous dites vous-même, parce que on se dit toujours, mais c'est un peu du voyeurisme, on a une espèce de curiosité malsaine sur ce qui se passe, surtout quand il est question de sexe, puisque là, il était question quand même d'une secte pédophile. Mais vous, vous dites très clairement, vous avez écrit deux livres d'ailleurs pour le dire, vous dites que vous avez besoin et que vous souhaitez continuer à parler de cette expérience.
Oui, pour la simple et bonne raison que j'étais pas la seule. Dans notre génération, en fait, on produisait à la chaîne des enfants, vu qu'il n'y avait pas de contraception et c'était encouragé. Donc, produire de la chair vivante au service de la cause et donc avoir des esclaves à disposition. C'était vraiment une volonté, en fait, de la secte, qu'il y ait des enfants, en fait, qui soient malléables et corvéables à souhait.
Et vos parents vous ont entraîné donc dans cette tragédie. C'était eux-mêmes d'anciens hippies?
Oui et non. En fait, du côté de mon père, oui, qui était américain. Ma mère, elle venait d'une bonne famille. Elle était à Sciences Po et elle avait une quête plus ou moins mystique et ésotérique et un besoin de sortir de la société de consommation.
À quel âge vous êtes arrivé dans cette secte avec eux?
Ben, moi, je suis née dedans.
Vous êtes née?
Oui, nous alors sommes nés dedans, comme plein d'autres enfants, oui.
Oui. Et donc, en fait, vous avez subi une éducation dont vous n'étiez pas capable en tant qu'enfant de savoir si c'était une bonne éducation ou une éducation perverse.
C'est ça, oui, on n'a pas de référentiel extérieur vu qu'on est au sein, on est en vase clos et on introjecte ce qu'on nous apprend. Hein. En tant qu'enfant, c'est comme la Corée du Nord pour essayer d'imager en fait une coercition mentale. Voilà, pour essayer d'illustrer ça, on n'a pas de référence extérieure hormis ce qu'on nous présente.
Dominique Rizet, vous voulez...
Oui, Amorena, bonjour.
Bonjour.
À 7 ans, vous avez essayé de vous sauver, c'est ça?
À 7 ans, j'avais pas les moyens de me sauver, non. Par contre, j'ai remis intérieurement en question les choix de vie qui étaient proposés.
C'est-à-dire qu'il y a un moment où vous avez compris que que des adultes n'avaient pas à demander à l'enfant que vous étiez de faire ce que vous faisiez, quoi.
Ça a mis du temps avant de comprendre que, enfin, les notions de légalité et de crime, je les avais pas encore en tête à cet âge-là, non.
Oui. Mais vous viviez dans un endroit particulier? Il y avait un lieu où...
Alors c'était une mobilité, vraiment une mobilité extrême qui était organisée par la hiérarchie pour des raisons de sécurité. En fait, souvent ils louaient de grandes bâtisses, de grandes demeures en retrait à l'extérieur et les effectifs tournaient énormément pour ne pas être suivis. Donc du nomadisme extrême.
Scolarité ou pas scolarité?
En extrême pointillé au début, et j'ai été scolarisée de façon permanente au lycée.
Vous avez quitté cette secte dans quelles circonstances? Je crois à l'âge de 18 ans.
Oui, 17 ans. En fait, j'ai voulu poser un acte officiel parce que je suis l'aînée d'une grande fratrie. Et même si moi, je disparaissais sans bruit, il y avait d'autres mineurs derrière moi et je voulais qu'il y ait un suivi au niveau des services sociaux sur les autres enfants, qu'ils aient le choix ou la liberté et qu'il y ait un regard de la société, en fait, ou des services sociaux sur leur devenir.
C'est à cet âge-là que vous vous êtes confiée à une assistante sociale et que vous avez été amené à témoigner devant des gendarmes?
Oui, c'est exactement ça. Oui, j'ai pu mettre des mots sur ce qui m'était arrivé.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vos parents ont été condamnés? La secte a eu des soucis? Comment avez-vous fait? Parce que après, vous êtes devenu autonome. Vous aviez d'autres personnes de votre famille à l'extérieur qui pouvaient vous aider?
Non, pas du tout. Non, non. J'ai dû poursuivre mon chemin plus ou moins seule. Heureusement, l'État m'a suivie pendant un petit moment. Jusqu'à mes 21 ans, il y avait un suivi de loin en loin pendant que je faisais mes études. Comment vous dire, il n'y a pas de... Il n'y avait personne dehors et...
Vous vous êtes prise en main toute seule, quoi, en fait.
Ouais. Il fallait que je puisse être à même déjà de formuler verbalement ce qui m'était arrivé depuis des années. En fait, être à même de nommer les choses et de les dire, c'est tout un processus. De pouvoir aller vers quelqu'un de l'extérieur et le formuler correctement.
Mais après vos révélations, il y a eu un procès ?
Alors j'ai été découragée également par les services de justice parce que on m'a dit que c'était peine perdue, tout simplement parce que l'état civil dans la secte était masqué, on était tous rebaptisés, donc c'était inutile de poursuivre quoi que ce soit dans ce cadre-là.
Et maintenant, aujourd'hui, alors en 2010, vous avez publié un livre où vous racontiez, d'ailleurs le titre veut bien dire, reflète bien votre état d'esprit, à l'époque et peut-être encore aujourd'hui, Purulence.
Oui, alors il fallait vraiment que je donne une voix à l'enfant, donc en tant qu'adulte, de formuler ce qui m'était arrivé à moi et également à d'autres enfants en France, des ressortissants de la secte ont témoigné, mais en anglais. Et c'est vrai qu'en France, au niveau des services de justice, il n'y avait rien du point de vue de l'enfant. Donc ça m'a donné le courage aussi de parler pour les autres.
C'est un livre qui est paru aux éditions Egocomics, je crois.
Egocomics, oui.
Oui, d'accord. Et vous avez fait un deuxième livre après, pourquoi ?
Alors le premier parle de l'enfance, et le second parle de l'adolescence. Donc c'est deux ambiances différentes.
Fille de chair, le titre.
Oui.
Ça veut dire quoi ?
Comment on s'incarne, comment on se construit avec ce qu'on nous a donné. C'est une relation au corps, en fait, qui est le dernier espace de liberté, plus ou moins, puisque nous, on était dépossédés de nous-mêmes ou de notre identité. Donc, l'adolescence, pour moi, ça a été une reprise de possession, quelque part, et c'était interdit, en plus, donc, de mon identité, de mon cheminement et de mon corps également, de ma liberté à moi.
Aujourd'hui, comment vous qualifieriez votre vie d'aujourd'hui ?
Je sais apprécier les bonnes choses de la vie et pour résumer tout court, la vie veut vivre malgré tout, tout simplement.
On vous souhaite de continuer ce chemin maintenant. Je pense qu'on peut toujours trouver vos livres. On va les remettre les titres d'ailleurs sur RTL.fr. Je vous remercie beaucoup, Amorena. Merci infiniment. Mais après ce qui vient d'être dit, je vous ai vu réagir au propos de Amorena à l'instant. Le fait qu'il n'y ait pas eu de procédure judiciaire aboutie, en tout cas, vous stupéfie.
Me stupéfie, oui et non. J'en prends acte. Ça montre la difficulté des enquêtes judiciaires en matière sectaire. Moi, j'ai l'expérience de l'affaire de l'Ordre du Temple Solaire. Il y a 15 ans, j'étais aux côtés des victimes. Oui. On a rencontré le même type de difficulté. Dans l'affaire d'Amorena, elle nous dit que dès le départ, les enquêteurs, en tout cas la police, ne l'a pas dissuadé de déposer plainte, mais lui ont dit que...
Attention, ne rêvez pas, ça va être
Ne rêvez
très
pas,
il n'y
a rien à faire, voilà, ce sera difficile, parce que... on n'a pas les moyens, visiblement, de poursuivre les personnes ou les gourous. Je l'ai vu aussi dans l'affaire de l'Ordre du Temple Solaire, qui, elle, pourtant, a fait l'objet d'une très longue instruction. Il y a même eu un procès de 15 jours, 3 semaines, en 2001, devant le tribunal correctionnel de Grenoble. L'accusé était Michel Tabachnik, l'ancien chef d'orchestre, qui était le seul survivant des gourous de la secte. Les autres se sont suicidés avec les 74 adeptes, tous manipulés. Et bien, ce seul survivant de la secte, Michel Tabachnik, après près de 3 semaines de procès, a été purement et simplement acquitté, relaxé. C'est dire la difficulté de coincer les responsables et les gourous d'une secte, fût-elle criminelle. Alors, depuis, il se trouve que l'année d'après ce procès, ou 6 mois après, est passée une loi qui a visé à réprimer ce qu'on appelle la manipulation mentale et qui est censée favoriser justement les enquêtes.
L'emprise psychique,
voilà, et les condamnations des gourous de secte. Mais depuis cette loi 2001, C'est-à-dire, depuis 16 ans, je n'ai pas entendu parler d'une seule affaire de secte dans laquelle, effectivement, ont été condamnés des gourous.
Mais non, parce que dans ces recherches, j'ajoute ça à ce que vous venez de dire, dans ces recherches, Charles de Luyermoz m'avait sélectionné un certain nombre de sons qu'on ne va pas écouter, de documents qu'on ne va pas écouter, mais qui parlaient d'un coup de filet de 200 gendarmes en 1993 en France, à la suite duquel, toujours sur la secte, les enfants de Dieu, une cinquantaine de personnes sont interpellées, sont soupçonnées d'incitation de mineurs à la débauche, c'est pas rien quand même. Et finalement, il y aura un procès qui va se tenir un peu plus tard. 22 adeptes sont mis en examen, donc, comme je viens de le dire. 6 ans plus tard, en janvier 1999, ils vont tous bénéficier d'un non-lieu. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, d'ailleurs, les sectes ne sont pas interdites en France. Ce sont les dérives sectaires qu'ils sont. Donc il y a une subtilité là.
Et c'est ce type d'affaire qui conduit à des non-lieux, c'est-à-dire une absence de sanctions judiciaires, qui a conduit à cette réforme législative dont je parlais en 2001 sur la manipulation psychique pour supposément favoriser les poursuites. Il y a un aspect aussi particulier parfois dans les sectes. Elles sont parfois tellement puissantes, ont tellement de membres, sont tellement dangereuses. Je pense à, une fois encore, à cette affaire de l'Ordre du Temple solaire, que parfois elles arrivent, par l'intermédiaire de certains de leurs membres, à parasiter les enquêtes, et y compris parfois la police judiciaire. On voit des choses hallucinantes quant aux capacités d'infiltration des sectes pour détruire et affaiblir les enquêtes judiciaires.
Elles ont de l'argent.
Oui,
elles ont de l'argent, elles ont des avocats puissants, et puis elles essaient de se faire désinscrire de la liste des sectes. Regardez la scientologie, c'est compliqué, c'est complexe. Mm-hmm. Et dans la scientologie, Maître Villemain, vous le disiez, il y a des personnalités, il y a des acteurs, il y a des gens célèbres.
Oui. Mais aux États-Unis, la scientologie est considérée comme une religion à part entière. Hein. Alors, revenons à votre émission. Justement, lorsque vous donnez la parole à Morena, j'ai pu donc visionner, je ne sais pas si c'est déjà passé à l'antenne ou ça
s'est
passé.
C'est passé.
C'est passé, bon. En fait, vous faites venir également des spécialistes, des psychologues, des avocats bien sûr, mais aussi des psychologues, parce que vous voulez toujours qu'on puisse essayer à la fois de décrypter, mais de donner d'aider. Peut-être de bons conseils, d'aider, et d'aider ceux qui ont été les victimes.
Ouais. Après à Morena, on a une psychologue qui vient nous parler, qui s'appelle Florence Pinloche, qui est une spécialiste de l'aide aux victimes de sectes, et qui nous explique ce qu'on peut faire pour aider psychologiquement ces gens-là, et qui nous dit quand même que ça devient c'est extrêmement compliqué pour des gens qui ont été, comme à Morena, dès leur enfance, embrigadés. Donc, évidemment, un psychologue, c'est quelqu'un qui a toujours de l'espoir. Oui. Mais on voit quand même comment c'est compliqué. Et on voit surtout ce système dont on parlait tout à l'heure, où on isole, on repère la personne. Généralement, ce sont des gens qui sont intellectuellement intéressants, plutôt évolués. Donc, on l'isole des siens.
D'abord, on la flatte. D'abord, il y a une période de séduction.
On lui téléphone beaucoup, on lui envoie des SMS la nuit. Comment ça va? Bravo pour ce que tu as fait hier. On fait une sortie, on fait un week-end. Viens avec nous. Et puis la personne participe, se fait des amis, des relations. Ouais. Et ensuite, on l'isole de sa famille. Ta famille, reste avec nous.
Ils sont
puis ensuite,
négatifs.
On lui prend un peu d'argent.
Ceux qui sont à l'extérieur sont négatifs.
Bien sûr.
Et ceux qui ont un discours contraire à celui de la secte deviennent des ennemis. Et c'est la théorie du complot. Etc.
Et parfois, si je peux me permettre, la coercition psychique, comme l'a dit Amorena très justement, conduit certains adeptes jusqu'au bout, et je l'ai vu au procès de l'Ordre du Temple solaire, venir à la barre et défendre les gourous. Défendre les gourous jusqu'au bout, et même exprimer, je l'ai vu à la barre, et des gens d'un niveau intellectuel assez important, un ancien architecte, une infirmière, aller jusqu'à regretter, en l'occurrence, de ne pas